Wikipédia, Sigmund Freud. Naissance le 6 mai 1856. Décès le 23 septembre 1939. De nationalité autrichienne-autriche. Vie universitaire. Formation, médecine, neurologie, psychiatrie. Titre, professeur. Approche disciplinaire. Psychanalytique. Principaux travaux. Psychanalyse sexualité infantile. Auteur associé. Détracteur. Pierre Janet, Ludwig Wittgenstein. Lev Vygotsky, Carl Gustav Jung. Partisan. Karl Abraham, Mélanie Klein. Wilhelm Reich, Adolf Hurgzi. Sigmund Freud, 6 mai 1856 à Freiberg, Moravie, actuel Rep. Tchèque. 23 septembre 1939 à Londres. Est l'inventeur de la psychanalyse. Il est parfois situé aux côtés de Karl Marx et de Friedrich Nietzsche comme l'un des trois grands penseurs du soupçon qui ont induit le doute dans la conception philosophique classique du sujet, Descartes, Kant, etc. Son œuvre, extrêmement féconde, a alimenté des penseurs très divers, ainsi que des disciplines variées. Outre les psychanalystes fidèles à Freud comme Karl Abraham, Sandor Fergzi, les innovateurs comme Mélanie Klein, les dissidents comme Wilhelm Reich, etc. Son influence se fait aussi sentir sur l'épistémologie Bachelard, sur l'ethnologie, le marxisme, les tentatives de Freudo-marxisme, sur les sciences politiques, sur la philosophie, Deleuze ou Derrida pour n'en citer que quelques-uns. Enfin sur l'art, le surréalisme, la méthode paranoïaque critique de Salvador Dali, etc. Son travail d'analyste, ses hypothèses et ses écrits ont ainsi ouvert de nombreuses perspectives dans des domaines variés. À l'origine, il fut médecin neurologiste, la psychiatrie n'existait pas encore, et s'intéressait à l'hystérie depuis qu'il avait assisté à Paris, au cours de Jean-Martin Charcot. C'est avec lui aussi qu'il a découvert l'hypnose, qu'il a pratiqué un temps, revenu à Vienne, avant de l'abandonner. C'est enfin et surtout la découverte de la psychanalyse, comme cure par la parole, qui a contribué à la notoriété de Freud. Sur Freud et sur son œuvre. Nous disposons actuellement de quantités d'œuvres sur la vie et l'œuvre de Freud à tel point qu'on peut légitimement se demander s'il reste encore quelque chose à découvrir sur ce personnage hors du commun. Depuis la biographie de Ernest Jones devenue incontournable, mais très critiquée pour son aspect d'hagiographie, jusqu'aux écrits actuels, en passant par des brûlots accusatoires, la plupart ont le défaut d'être au service d'une démonstration de leur auteur. Il s'agit soit de prouver que Freud est le plus grand penseur de tous les temps, soit de démontrer que c'est un charlatan. Peu de place pour de véritables travaux historiques. C'est certainement dans ce domaine que beaucoup de travail reste à faire, par-delà les polémiques, les modes et les engouements de l'instant. Biographie. Enfance et études. Originaire d'une famille juive de Bohême, Sigmund Freud naît le 6 mai 1856 à Freiberg en Moravie. Troisième fils de Jacob Freud, modeste négociant, et premier enfant de son dernier mariage. Après quelques déménagements, la famille Freud s'installe dans le quartier juif de Vienne, ancien ghetto de la ville. Brillant élève, premier de sa classe pendant ses 7 dernières années de scolarité, collège et lycée, il hésite quant aux études qu'il doit faire entre le droit, la médecine et la philosophie. Ayant choisi la médecine, il mettra du temps à terminer ses études, il en aura profité pour assister aux cours de Brentano, travailler dans le laboratoire de Karl Claus d'abord et d'Ernst Bruck ensuite. Il est docteur en médecine en 1881 et Bruck lui conseille de commencer à pratiquer en hôpital s'il veut pouvoir se faire une situation. Freud en effet est assez pauvre et il se fiance en juin 1882. Il doit penser à son avenir plus qu'au plaisir de la recherche en laboratoire. Déroulement des travaux de Freud. Freud a très tôt le projet général de constituer une psychologie scientifique à partir de trois principes des fonctionnements psychiques, dynamique, topique, économie, selon ses termes. Il poursuit cet objectif jusqu'à la fin de sa vie et dans la dernière période, il élargit son propos aux conséquences d'une telle vision de la psychologie dans le champ de l'anthropologie. À plusieurs reprises, il va donc élaborer des modèles, au sens moderne, de l'appareil psychique et les confronter à sa pratique thérapeutique, incessante pendant plus de 50 ans. Première phase, 1883 à 1893. De l'hypnose à la méthode cathartique. Jeune médecin, jeune neurologue, jeune chercheur et jeune psychiatre, avant la lettre, Freud se trouve confronté à une énigme scientifique. Le champ des névroses commence à être distingué du champ des maladies avec lésions et de la simulation. Il existe des troubles fonctionnels sans lésions, mais douloureux psychiquement pour le patient. Quelle est l'origine de ces troubles névrotiques et du plus exemplaire d'entre eux, le plus spectaculaire aussi, l'hystérie? Freud connaissant l'anatomie et la physiologie cérébrale, normale ou pathologique, ou soumise à des toxiques, la cocaïne par exemple, se tourne vers Charcot puis Hippolyte Bernheim pour comprendre le cas d'Hanau, dont il a eu connaissance par son maître Breuet, ainsi que du traitement que celui-ci avait engagé et dont les explications ne satisfont pas Freud. À Paris, Charcot dit à voix basse, et il ne souhaite pas que cela se diffuse, que l'hystérie a quelque chose à voir avec le sexuel ou le génital, origine supposée et discutée depuis Hippocrate, utérus donnant l'étymologie d'hystérie. Mais par quel processus la sexualité peut-elle conduire à l'hystérie, d'autant que l'on sait que l'hystérie masculine existe aussi, conférence de Freud en 1886. L'hypnose sert à Charcot à montrer que les troubles ne sont pas lésionnels, ils disparaissent sous hypnose. Bernheim essaye d'utiliser celle-ci pour soigner en énonçant que l'hystérie est un trouble psychologique. Mais l'hypnose n'est pas toujours efficace et les théories, mal dégagées du mesmérisme, n'expliquent pas son fonctionnement. Hippolyte Bernheim théorise la suggestion comme explication de l'origine du trouble et comme moyen thérapeutique. Freud conduit une de ses patientes en Yvonnen chez Bernheim pour traiter son hystérie, c'est un échec, confirmé par la patiente qui demande à Freud de cesser toute hypnose et toute suggestion, mais de l'écouter. D'où, d'une part, l'hypothèse nouvelle que l'hystérie est la conséquence d'un traumatisme sexuel subi pendant l'enfance et, d'autre part, que faciliter l'évocation consciente de celui-ci permet de guérir l'hystérie. Aucun des prédécesseurs de Freud n'avait émis cette hypothèse et n'en avait tiré une pratique thérapeutique rationnelle, sans hypnose, sans suggestion, par l'évocation des traumatismes sexuels infantiles grâce à la parole et à l'association libre. Freud fondait du même coup un champ d'études psychologiques sur un fait psychologique dégagé de la neurologie aux causes héréditaires ou de dégénérescence, Joseph Babich qui renommera l'hystérie en pitiatisme pour l'exclure du champ scientifique de la neurologie mais en la rejetant ainsi vers la simulation ou de la psychophilosophie de Pierre Janet. Deuxième phase, 1893 à 1905. L'invention de la psychanalyse. Les thérapies engagées par Freud sur la base de ses hypothèses le conduisent à découvrir que tous ses patients n'ont pas subi de réels traumatismes sexuels dans leur enfance. Ils évoquent des fantasmes, ils racontent un roman familial auquel ils croient. D'où viennent-ils? Simultanément, ils découvrent que certains patients ne souhaitent pas vraiment guérir, ils résistent en transposant des sentiments anciens vers leur thérapeute. C'est le transfert. Freud crée le terme de psychanalyse pour désigner tout son champ de pratique thérapeutique et d'études théoriques. L'inconscient apparaît alors comme la racine commune à ces phénomènes, les rêves sont là, voie royale, pour y accéder ainsi que les lapsus et les actes manqués. C'est dans cette période que Freud se sert de son auto-analyse pour approfondir les rapports entre souvenirs d'enfance, rêves et troubles névrotiques. Freud se lance alors dans la description d'un appareil psychique qui, par son fonctionnement, peut rendre compte de ses faits. Partage entre la sphère des événements inconscients et conscients, avec une interface le préconscient qui permet aux événements de venir à la conscience par le travail thérapeutique, mais pas seulement, ou être refoulés dans l'inconscient, et produire des effets à long terme parfois. La vie mentale prend ainsi une forme plus complète, où il articule la dualité des pulsions sexuelles qui tendent à la conservation de l'espèce et des pulsions du moi qui tendent à la conservation de l'individu. L'appareil psychique a, pour fonction la réduction des tensions, concept d'économie de l'énergie psychique que Freud utilise régulièrement, en particulier celles qui sont déplaisantes, par décharge ou par refoulement dans un processus de défense. Le conscient n'est plus qu'une partie de cet appareil psychique, dont la partie inconsciente, les tendances refoulées, se frayent un chemin dans les rêves ou les symptômes de la névrose. La source profonde des névroses est à trouver dans cette configuration que traverse tout enfant dans son développement psychique, la situation édipienne, amour pour le parent de sexe opposé et rivalité avec le parent de même sexe. Le conflit édipien, qu'il dépasse plus ou moins complètement et qui va perdurer comme un complexe, le complexe d'Édipe, s'il ne se dénoue pas? Freud pense cette situation universelle ou quasiment. Cette période se conclut par la publication des trois essais sur la théorie sexuelle qui rassemble les hypothèses de Freud sur la place de la sexualité et son devenir dans le développement de la personnalité et par le cas d'Aura qui introduit de manière détaillée et illustre le concept de transfert. Transfert par lequel le patient crée une névrose, la névrose de transfert, dans la relation qu'il établit avec son thérapeute. C'est en analysant cette névrose, en quelque sorte expérimentale, que les origines de la névrose initiale se trouvent aussi dévoilées, voire les causes dénouées. Les premières publications de Freud sont utilisées par des médecins germanophones pour développer leurs pratiques thérapeutiques. Ceux-ci entrent en relation avec Freud et engagent avec lui de longs échanges critiques sur les résultats pratiques et les hypothèses à explorer. C'est le début de la psychanalyse en tant que mouvement. Troisième phase, 1905 à 1920. L'institution psychanalytique. À partir de ces hypothèses, considérablement enrichies et structurées, Freud s'interroge pendant toute cette période sur la pratique de la cure, ses indications, sa conduite, ses limites, sa fin et sur les conduites de l'enseignement et de la formation des psychanalystes. Il publie des articles, par exemple à propos de la psychanalyse dite sauvage, où il critique les médecins qui s'autorisent d'une pratique psychanalytique sans avoir expérimenté par eux-mêmes le parcours d'une cure. Il défend aussi l'idée que des non-médecins formés à la psychanalyse pourraient assurer des cures. Là, direction des revues et des travaux théoriques, des séminaires, va l'occuper considérablement dans cette période, d'autant que parmi ceux qui travaillent avec lui, certains sont en rivalité personnelle, d'autres font des innovations théoriques ou pratiques que Freud n'admet pas, mais les débats restent ouverts car il n'a pas de réel pouvoir d'interdiction. Jung, Adler, Fergusy, Ranke et bien d'autres vont ainsi à la fois apporter des contributions de valeur, des critiques pertinentes et des inflexions que Freud va discuter pied à pied, d'où qu'elles viennent. Il intégrera, en cohérence avec ses théories, certaines d'entre elles dans ses hypothèses des années après. Ainsi, il refuse la mise en avant de l'agressivité par Adler, car il considère que cette introduction se fait au prix de la réduction de l'importance de la sexualité ou bien que Jung, pour des raisons morales et religieuses, introduit l'inconscient collectif au détriment des pulsions du moi et de l'inconscient individuel. Freud publie de nombreux ouvrages de synthèse, donne des leçons qu'il publie ensuite et fait des conférences dans divers pays où il est accueilli de manière très diverse. En 1915, il se lance dans la rédaction d'une nouvelle description de l'appareil psychique dont il ne conservera que quelques chapitres. Ce qu'il prépare est en fait une nouvelle rupture dans sa conception de l'appareil psychique. En 1920, il commence à rédiger au-delà du principe de plaisir qui introduit les pulsions agressives nécessaires pour expliquer certains conflits intrapsychiques. Quatrième phase, 1920 à 1939. Extension de la psychanalyse. Cette période s'inaugure par l'élaboration de ce qui a été appelé la seconde topique. Le moi, le sé et le surmoi qui se substituent et se superposent à la première, inconscient, préconscient, conscient. Le développement de la personnalité et la dynamique des conflits sont interprétés comme des défenses du moi contre des pulsions et des émotions, plutôt que comme des conflits de pulsions. Les pulsions en cause sont des pulsions de mort. L'ambivalence et la haine étaient perçues dans la première topique comme secondaires à la frustration, subordonnées à la sexualité. Avec cette nouvelle conception, une lutte active se déroule entre les pulsions de vie, sexualité, libido, eros, et les pulsions de mort et d'agression, thanato. Plus fondamentale que les pulsions de vie, les pulsions de mort tendent à la réduction des tensions, retour à l'inorganique, répétition qui atténue la tension, et ne sont perceptibles que par leur projection au dehors, paranoïa, ou leur fusion avec les pulsions libidinales, sadisme, masochisme, ou leur retournement contre le moi, mélancolie. La censure qui provoquait le refoulement dans la première topique agit de manière inconsciente, donc tout l'inconscient n'est pas du refoulé. Ce qui induit des conséquences importantes sur la pratique de la cure. L'interprétation des conflits, qui ne sont pas des conflits actuels, ne sont pas non plus des conflits de pulsions mais sont des défenses du moi contre des pulsions. Les pulsions sont des pulsions sexuelles et des pulsions agressives. Cette conception de la psychanalyse est beaucoup plus riche et complexe que la réduction au pansexualisme qui en est souvent faite par ignorance. Dans les dernières années de sa vie, Freud a essayé d'extrapoler les concepts psychanalytiques à la compréhension de l'aventure humaine, de l'anthropologie. Il avait déjà rédigé un certain nombre de textes dans ce sens, en particulier sur la religion, comme Illusion ou Névrose. Sa biographie, avec tous les drames qui l'ont atteint, n'est certainement pas pour rien dans le pessimisme foncier qui s'en dégage. C'est la partie la plus risquée de son travail et celle où les soubassements philosophiques de sa pensée émergent le plus, biologisement dernier recours parfois, visions politiques qui sont des projections de la dynamique individuelle, sur la société, etc. Résumé des principaux concepts freudiens. Conscient et inconscient. Freud introduit une conception tout à fait neuve de l'inconscient. On avait en effet depuis longtemps remarqué que certains phénomènes échappent à la conscience. Leibniz observait déjà que lorsque l'on passe quelque temps près d'une cascade, on est d'abord gêné par le bruit pour l'oublier ensuite tout à fait. Les phénomènes d'ivresse ou de transe donnaient eux aussi des exemples d'abolition de la conscience. Or, l'inconscient qu'introduit Freud n'est pas simplement ce qui ne relève pas de la conscience. Par inconscient, Freud entend à la fois un certain nombre de données, d'informations, de désirs tenus hors de la conscience, mais il entend aussi l'ensemble des processus qui empêchent certaines données d'arriver à la conscience et permettent aux autres d'y accéder, comme le refoulement, le principe de réalité, le principe de plaisir, la pulsion de mort. Ainsi, Freud fait de l'inconscient l'explication de la plupart des phénomènes conscients eux-mêmes. Les trois stades de la sexualité infantile. Astérisque le stade oral. Durant cette période, la première année, la zone érogène privilégiée est la bouche, notamment à travers l'action de l'allaitement. Le bébé prend plaisir à téter le sein de la mère. C'est le plaisir de manger et d'être mangé. Astérisque le stade anal. L'enfant se focalise entre 1 et 3 ans sur la région rectale, le plaisir est généré par le fait de retenir les matières fécales, rétention, ou de les expulser, défécation. C'est aussi à ce moment que l'enfant entre en opposition constante, ce qui a parfois donné à ce stade le nom de stade sadique anal. Astérisque le stade phallique, voire complexe d'Édipe ci-dessous. Complexe d'Édipe. Pour Freud, la structure de notre personnalité se crée par rapport au complexe d'Édipe ou d'Électre, et à la fonction paternelle. Le complexe d'Édipe intervient au moment du stade phallique. Cette période se termine par l'association de la recherche du plaisir à une personne extérieure, la mère. Le père devient alors rival et l'enfant craint d'être puni de son désir de la mère par la castration par le père. L'enfant refoule donc ses désirs et complète son surmoi avec le concept de pudeur entre autres. Les trois blessures narcissiques. Freud constatait que l'humanité avait déjà subi deux blessures narcissiques du fait de la recherche scientifique, que Nicolas Copernic montre qu'elle n'est pas au centre de l'univers et que Charles Darwin montre qu'elle n'est qu'une branche du règne animal. Freud estimait que la psychanalyse allait apporter une troisième vexation en montrant que l'homme n'est pas véritablement maître de ses agissements. Les trois instances de l'appareil psychique. Dans la seconde topique proposée par Freud, notre comportement est le résultat d'une subtile équation entre trois instances distinctes. Astérisque le ça. Il s'agit de manifestations somatiques, agressives, sexuelles, aspects instinctifs et animal. Si le ça est inaccessible à la conscience, les symptômes de maladie psychique et les rêves permettent d'en avoir un aperçu. Le ça obéit au principe de plaisir et recherche la satisfaction immédiate, c'est une sorte de marmite où bouillonnent tous nos désirs refoulés. Astérisque le moi. Le moi est en grande partie conscient, il est le reflet de ce que nous sommes en société, il cherche à éviter les tensions trop fortes du monde extérieur, à éviter les souffrances grâce notamment aux mécanismes de défense se trouvant dans la partie inconsciente de cette instance. Le moi est l'entité qui rend la vie sociale possible. Il suit le principe de réalité. Astérisque le surmoi. Depuis la naissance jusqu'à 5 ans, l'enfant hérite de l'instance parentale, groupale et sociale, il emmagasine quantité de règles de savoir-vivre à respecter. Dans les sociétés judéo-chrétiennes, en intériorisant les règles morales ou sociétales de ses parents et du groupe, l'enfant, puis l'adulte pratique le refoulement. En effet, le surmoi punit le moi pour ses écarts, par le truchement du remords et de la culpabilité. En résumé, le moi est le résultat des pulsions du ça filtré par les exigences du surmoi. Culture, nature et interaction. Culture, pensée, raison, tout ce qui a été créé par l'homme, religion comprise, langage. Nature, sensibilité, instinct, désir, besoin. L'homme doit en permanence lutter contre sa nature, ses désirs doivent être réfrénés afin que vive la société, sans quoi l'égoïsme universel amènerait le chaos. Plus le niveau de la société est élevé, plus les sacrifices de ces individus sont importants. Par les règles claires qu'elle nous impose, la culture nous protège, même si elle exige des renoncements pulsionnels conséquents, ce qui explique qu'il existe souvent une haine, souvent inconsciente, vis-à-vis de la culture. C'est pourquoi la culture nous offre des dédommagements aux contraintes et sacrifices ressentis, et ce à travers la consommation, le divertissement, le patriotisme. Un peu de vocabulaire. Refoulement, barrière interne défensive et structurelle visant à bloquer le représentant et l'affect pulsionnel dans le système IC pour qu'il n'accède pas au système PCS/CS. interdit, dispositif qui fixe le refusement. Privation, état qui entraîne l'interdit. La privation peut être d'ordre individuel, plaisir, désir de meurtre, inceste, cannibalisme ou collectif. Les pauvres doivent renoncer à plus de choses que les riches, système opprimé / opprimant. Narcissisme, processus de structuration psychique par l'exploration du moi. Freud distinguait un narcissisme primaire dans prime enfance et un narcissisme secondaire par la suite, voire narcissisme. Pulsion. Stimulus ou stimuli, signal reçu de l'extérieur. Il peut être fui, fermer les yeux pour éviter la lumière. Pulsion, signal reçu de l'intérieur. Elle ne peut être fui, sa source est l'excitation physique et elle cherche à être satisfaite. Freud distingue deux types de pulsions principales, la pulsion de vie, Eros, et la pulsion de mort, Thanato. La sublimation est la modification du but et de l'objet d'une pulsion par un autre biais que celui suggéré par la pulsion. Un artiste peut par exemple sublimer ses désirs sans devenir névrosé ou hystérique. La sublimation canalise donc l'énergie des pulsions, Eros ou Thanato, sur un objet précis, une matérialisation non sexuelle. Eros représente l'amour et le désir tandis que Thanato représente la mort, les pulsions destructrices et agressives. Thanato tend donc à détruire tout ce qu'Eros construit, la perpétuation de l'espèce par exemple. Le masochisme en est un excellent exemple. Les fonctions de la religion. Freud est extrêmement critique vis-à-vis de la religion et estime que l'homme y perd plus qu'il n'y gagne par la fuite qu'elle propose. L'humanité doit accepter que la religion n'est qu'une illusion pour quitter son état d'infantilisme, comme pour l'enfant qui doit quitter le complexe d'Édipe. Il dénombre trois fonctions sociétales de la religion. Astérisque, exorciser l'effroi et ainsi calmer l'homme. L'homme se sent démuni face à l'existence et, comme l'enfant qui dépend de ses parents, principe de désaide, il a besoin d'une protection qu'il retrouve en Dieu. L'homme retrouve en fait en Dieu à l'âge adulte la figure paternelle perdue. Par conséquent, la religion n'est qu'une illusion, le résultat d'un désir très profond de protection qui nous apporte des explications rassurantes. La mort n'est pas la fin de la vie, Dieu a créé le monde et il produit les phénomènes naturels. Astérisque réconcilier l'homme avec la cruauté du destin, à savoir la mort. Astérisque dédommager des privations imposées par la culture. Certes, l'homme doit obéir à des règles contraignantes, mais la religion lui promet des récompenses s'il s'y soumet, confère le paradis. Néanmoins, Freud reconnaît que son point de vue a une limite. Il existerait un noyau de vérité dans les religions, les superstitions et ce qu'il nomme l'occultisme. Freud élabora des expériences de télépathie, en particulier avec les premiers psychanalystes Jung et Fergusy, et écrivit plusieurs articles sur cette question. Il fut longtemps membre des sociétés anglaises et grecques pour la recherche psychique. Confère. Christian Moreau, Freud et l'occultisme, Peyo, 1976 et les rêves. Selon Freud, son travail sur les rêves est le plus important de tous, celui qui devrait survivre à tout. Il écrivait que le rêve est la voie royale de l'inconscient. Il s'est ouvert à Wilhelm Fliess d'un vœu, il voulait qu'une plaque soit posée sur sa maison et qu'il dise « C'est dans cette maison que le 24 juillet 1895 le mystère du rêve fut révélé au docteur Sigmund Freud. Ce vœu s'est réalisé et la plaque figue actuellement devant le 19 Berg à sa Vienne. La date correspond à l'un de ses rêves, celui de l'injection faite à Irma. Les rêves sont des représentations de désirs refoulés dans l'inconscient, par la censure interne, plus tard, il parlera de surmoi. Les désirs se manifestent dans le rêve de manière moins réprimée qu'à l'état de veille. Les contenus manifestes du rêve est le résultat d'un travail intrapsychique qui vise à masquer le contenu latent, par exemple un désir édipien. En cure de psychanalyse, le travail repose sur l'interprétation à partir du récit « contenu manifeste », en passant par les associations du patient pour arriver au contenu latent. Le travail du rêve repose sur quatre procédés. Le rêve condense, comme s'il obéissait à un principe d'économie. En une seule représentation, seront concentrées plusieurs idées, plusieurs images, parfois des désirs contradictoires. Le rêve décentré, le désir déformé sera fixé sur un autre objet que celui qu'il vise, ou sur de multiples objets, jusqu'à l'éparpillement, le rêve dilue parfois. Il y a un déplacement de l'accent affectif. Le rêve est une illustration, figuration, du désir en ce qu'il ne l'exprime ni en mots ni en actes, mais en image, ici joue le symbole. La représentation substitutive de l'objet et du but du désir est parfois typique d'usage universel. Enfin, le rêve est aussi le produit d'une activité également inconsciente, mais très proche de l'activité vigile, en ce qu'elle s'efforcera de lui donner une apparence de vraisemblance, d'organisation, de logique interne. C'est l'élaboration secondaire. Postérité et critique. Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Freud a été critiqué par certains opposants, tant sur le plan des méthodes que sur le plan moral. L'influence du mouvement psychanalytique et du freudisme. Freud a construit ses modèles de façon à transposer les enseignements de sa pratique psychothérapeutique dans les théories métapsychologiques. Cela l'a conduit à imaginer ou remettre en lumière des concepts comme l'inconscient, la sexualité infantile, et à les appliquer pour l'hystérie et l'ensemble du domaine des névroses. Ce travail n'a pas été sans défauts ni limites diverses. Les travaux historiques d'Ernest Jones et, plus récemment, du psychiatre suisse Henri Ève et Lamberger permettent de préciser que la découverte de l'inconscient est antérieure à Freud. Si ce dernier est un précurseur en la matière, c'est par sa manière de théoriser l'inconscient dans sa première topique puis sa seconde topique. Il a aussi et peut-être surtout été celui qui a délivré la parole de la sexualité féminine, question méprisée jusqu'alors par les médecins. Il faut encore rappeler qu'il n'a, par contre, jamais pris de position prônant une libération en matière d'éducation et de mœurs. Freud a aussi eu une importance historique de premier plan. Son travail de pionnier a eu un impact décisif sur ce qu'est la psychologie, sur la nosographie des troubles mentaux, la psychopathologie sur la relation du patient et de son psychothérapeute, transfert sur la structure et le développement de la personnalité, sur les conflits intrapsychiques, leurs origines internes, pulsionnelles et leurs origines sociales et familiales, etc. Impact qui reste encore inscrit dans le champ des sciences humaines même, si l'approche contemporaine est largement dominée par l'idéologie scientifique, statistique et expérimentale. L'influence considérable et souvent décisive des théories de Freud s'est étendue dans beaucoup de pays, européens, américains, sud-américains, mais à l'heure actuelle, elle tend à être remise en cause. Œuvre majeure. Les traductions en français. En français, les traductions sont éparpillées entre plusieurs éditeurs, PUF, Payot, Gallimard. Depuis 1988 existe au PUF, la traduction, par une équipe de traducteurs, sous la direction scientifique de Jean Laplanche, des œuvres complètes de Freud, OCF.P, dont la publication est en voie d'achèvement. Les OCF.P auront été souvent controversés à cause de l'exigence de fidélité au texte allemand susceptible de dérouter bien des habitudes françaises de lecture de Freud. Le volume Traduire Freud, 1989, explique les principes auxquels se réfère cette grande entreprise d'une publication dans une nouvelle traduction des œuvres complètes de Freud en France.